VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, tout un plaisir de vous retrouver en ce jeudi 10 décembre 2015. Jacques Aristide et Anne Albertson pour vous présenter une demi-heure d'infos et de décryptage de l'actualité. Au sommaire ce matin.
Au Burkina Faso, Roch Kabore aura une cérémonie d'investiture digne de ce nom, affirme le président de la transition.
Au Nigeria, un mania des médias inculpé de fraude et de blanchiment d'argent.
Attentat de San Bernardino, ici aux États-Unis, les tueurs Farouk et Malik s'étaient radicalisés avant même de se rencontrer, selon le FBI.
À venir dans la Tranche Magazine, ce qu'il faut attendre d'une enquête africaine sur les violations des droits de l'homme au Burundi.
Je ne comprends pas très bien que ce soit maintenant que la commission vienne et je ne vois pas trop bien sur quoi elle vient enquêter. Il est vraiment plus que temps d'agir.
Et puis, dans la Minute Éco, savez-vous quand sortira d'usine la première voiture made in Uganda? Réponse tout à l'heure. Et en sport, le Nigeria et l'Algérie en finale de la CAN des moins de 23 ans.
Le président de la transition au Burkina Faso, Michel Kafando, a promis hier une cérémonie d'investiture digne de ce nom. Lors de la passation des pouvoirs au président élu, Roch Marc-Christian Kabore, qui aura lieu avant la fin de l'année, Jean-Roger Bion.
L'investiture que nous allons préparer est un événement digne de ce nom. Ce sera la première fois dans l'histoire du Burkina qu'un président civil va remettre le pouvoir à un président civil. Donc je pense qu'il faut aussi mettre le cachet nécessaire, a dit M. Kafando à l'issue d'une rencontre avec son successeur. Le président de la transition a promis une investiture au mois de décembre. Selon l'AFP, l'investiture de Kabore est attendue le 22 de ce mois. Le parti de l'ex-président Blaise Compaoré, chassé par la rue à la fin du mois d'octobre 2014 après 27 années au pouvoir et qui n'a pu participer à la présidentielle, a pour sa part félicité M. Kabore plus de 8 jours après l'annonce des résultats.
La Guinée et l'ONU ont rendu un hommage solennel hier à Conakry à 2 soldats guinéens tués fin novembre dans une attaque djihadiste à Kidal, au Mali voisin. Le lieutenant-colonel Marwan Diallo et l'adjudant-chef Jacob Loua, dont les corps ont été rapatriés lundi, ont été salués lors d'une cérémonie d'obsèques marquée par un défilé militaire. L'attaque avait été revendiquée par le groupe malien Ansar Dine. Un civil contractuel de l'ONU a aussi été tué dans l'attentat.
Guillaume Soro a quitté la France hier soir pour rentrer à Abidjan, selon un porte-parole de la présidence ivoirienne. Pour rappel, le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire était visé par un mandat d'amener émis à Paris. Abidjan avait convoqué avant-hier l'ambassadeur de France pour formuler de vives protestations. Monsieur Soro, deuxième personnage de l'État, fait partie de la coalition au pouvoir dirigée par le président Alassane Ouattara.
Au Nigeria, Raymond Dogpesi, fondateur des premières radios et télévisions privées du pays, a été inculpé hier pour fraude et blanchiment d'argent. Il est poursuivi dans une affaire de corruption présumée sur des achats d'armement. Michel Joseph.
Raymond Dogpesi, 64 ans, patron du Ray Power FM et de la chaîne Africa Independent Television, a comparu hier devant la Haute Cour fédérale d'Abuja. La date de son procès est fixée au 17 février 2016. Son avocat Mike Ozekome estime que les accusations sont ridicules et sans fondement. La justice lui reproche d'avoir contribué à détourner plus de 10 millions de dollars pour financer la campagne du PDP, parti de l'ex-président Goodluck Jonathan, entre octobre 2014 et mars 2015. Selon l'accusation, cet argent lui aurait été remis par le colonel Sambo Dasuki, à l'époque conseiller à la sécurité nationale. Monsieur Dasuki est lui-même aux arrêts depuis le 1er décembre, accusé d'avoir détourné près de 2 milliards de dollars en achats fictifs d'armement pour la lutte contre Boko Haram. Il a plaidé non coupable. Une audience pour sa libération sous caution est prévue aujourd'hui. Bachir Yuguda, ancien secrétaire d'État aux Finances, et Atahiru Barafawa, ancien gouverneur de l'État du Sokoto, sont également arrêtés dans la même affaire.
En Afrique du Sud, le président Jacob Zuma a limogé son ministre des Finances, Nhlanhla Nene, sans préciser la raison ni la nature de ses prochaines fonctions. M. Néné, selon l'AFP, est considéré comme un obstacle à plusieurs projets gouvernementaux, alors que le pays fait face à des problèmes économiques et sera remplacé par le député de l'ANC, David Van Rooyen.
Face à une triple menace, pauvreté, insécurité et changement climatique, le Sahel risque de basculer dans une situation chaotique, donnant éventuellement lieu à une nouvelle vague de migration. L'ONU tire la sonnette d'alarme et demande aux donateurs un montant record de 2 milliards de dollars pour la région. Nanité Talani.
Chaque année, l'ONU appelle à davantage d'efforts en faveur des 9 pays de la bande semi-aride allant du Sénégal au Tchad. En 10 ans, la demande a augmenté 10 fois plus. Chaque année, pourtant, les fonds s'avèrent insuffisants. Le coordonnateur régional de l'ONU pour les questions humanitaires, Tony Lanzer, reconnaît la difficulté pour les gouvernements occidentaux d'accroître leur contribution à cause des crises multiples auxquelles ils font face. Mais ce serait tout à leur avantage, fait-il remarquer. À l'heure actuelle, des habitants partent à vélo de la Russie à la Norvège, dit-il, en référence aux réfugiés syriens arrivant en Europe. Au bout du compte, nous verrons des milliers, voire des dizaines de milliers de Sahéliens partir à la recherche d'une vie meilleure. Dans le pire des cas, ils seront contraints de fuir, a-t-il déclaré à l'agence Reuters. Les Nations Unies attirent l'attention sur la gravité de la situation, par exemple dans le bassin du lac Tchad, où les attaques de Boko Haram et les opérations des armées régionales pour contrer les islamistes ont déjà fait 2,5 millions de déplacés.
L'ONU a par ailleurs appelé hier la communauté internationale à fournir 165 millions de dollars d'assistance humanitaire à 2 400 000 personnes en Libye, pays livré au chaos. Des milices armées y sévissent depuis la chute de Muammar Kadhafi en 2011, une situation qui a permis notamment au groupe État islamique de monter en puissance en Libye.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La conférence sur le climat doit se terminer demain vendredi, à moins de 24 heures de la clôture. Les représentants de 195 pays négocient âprement pour parvenir à un accord. Le temps presse et les ONG s'impatientent, Eddie Sango.
Nicolas Hulot, représentant du président François Hollande, a dramatisé les enjeux car il ne reste que 24 heures pour tendre la main à l'histoire. Jean-François Julliard, directeur général des Greenpeace France, ne cache pas son inquiétude. Selon lui, les projets d'accord de 29 pages comportent les pires et les meilleurs. Pour Hélène Zoc, directrice d'Oxfam, il reste encore beaucoup à faire. Sur la réduction des gaz à effet de serre, Céla Gauthier du réseau Action Climat estime que les États discutent d'objectifs à long terme sans donner les moyens de les atteindre. Donc tout est en suspens selon Jennifer Morgan du World Resources Institute, un think tank américain. Pour faire pression sur tout le monde, près de 200 militants des différentes ONG ont organisé hier un sit-in devant les centres de conférences. Augustine Bantar Njamshi du Cameroun assure que son ONG n'est pas venue qu'émander de l'aide, mais demander des compensations pour les pays pauvres, les moins pollueurs, mais qui subissent le plus les impacts du réchauffement climatique.
La COP21, nous y reviendrons en seconde partie d'émission.
Le point maintenant sur l'attentat perpétré la semaine dernière à San Bernardino, en Californie. Les époux s'étaient radicalisés avant même de se rencontrer, a révélé hier le patron du FBI lors d'une audition au Congrès. Syed Farouk, le mari, projetait de commettre une attaque avec un complice dès 2012, a indiqué de son côté un sénateur américain. Farouk envisageait cet attentat à une époque où le groupe État islamique n'existait pas encore, avec Enrique Marquez, un ami d'enfance. Mais leur projet avait avorté en raison d'arrestations effectuées par la police antiterroriste, toujours d'après le sénateur républicain James Risch, ce que cite l'AFP. Marquez est suspecté d'avoir acheté les fusils d'assaut utilisés par Farouk et sa femme, Tashfin Malik, pour faire 14 morts et 21 blessés lors d'un déjeuner de Noël. Ils ont ensuite été abattus par la police.
L'attentat de San Bernardino qui a été suivi, vous le savez, par les propos incendiaires sur les musulmans de Donald Trump. Le candidat républicain à la Maison-Blanche a proposé d'interdire l'accès aux États-Unis des musulmans. Très critiqué au sein de son propre parti, le milliardaire américain, toujours favori des sondages, a rappelé hier à ses nombreux détracteurs qu'il pourrait se laisser tenter par une candidature en solitaire. Donald Trump, dont le discours anti-musulman a rejoint ceux de certaines personnalités politiques dans d'autres pays occidentaux, tenus dans la foulée des attentats de Paris et de San Bernardino, comme nous le rappelle Eric Manera-Kiza.
Insensible aux condamnations de toutes parts, Donald Trump continue de défendre son idée de barrer l'entrée des musulmans aux États-Unis. Se faisant l'écho de ses propos en Australie, l'ancien premier ministre Tony Abbott, qui est un ancien séminariste catholique, parle de supériorité de la culture occidentale sur l'islam. En France, Marion Maréchal Le Pen, étoile montante du Front National, après sa victoire historique aux élections régionales, a affirmé que les musulmans ne pouvaient être français qu'à la condition de se plier aux mœurs chrétiennes du pays. Le premier ministre hongrois Viktor Orban, opposé à l'arrivée des migrants musulmans syriens, estimait en octobre que l'islam n'appartient spirituellement pas à l'Europe. Geert Wilders, député néerlandais d'extrême droite, a salué les propos de Donald Trump, disant qu'il espère le voir accéder à la Maison-Blanche. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou devrait même recevoir Donald Trump le 28 décembre prochain. Malgré toutes ces déclarations incendiaires, M. Trump est toujours donné favori en vue des primaires du Parti républicain.
Et maintenant, tour d'horizon de l'actualité économique avec Anastasie Tudiech.
La Banque mondiale a accordé une enveloppe de 50 milliards de francs CFA au Mali en vue d'aider ce pays à reconstruire les infrastructures de base, de rétablir les activités productives déstabilisées par la crise. À travers l'Association internationale de développement, ce sont au moins 32 000 ménages vulnérables qui ont pu bénéficier d'une aide, soit par le biais de petits outillages et services d'appui à leurs activités agricoles ou encore de kits d'élevage. La première voiture Made in Uganda est prévue en 2008 et s'appellera Kiera. La voiture a été d'abord financée par le Fonds présidentiel pour l'innovation. Les concepteurs du projet ont ensuite été rejoints par une équipe de consultants et de conseillers, les Américains RLE International et National Instruments, les Anglais Arab Group, les Sud-Africains Automotive Investment Holdings et les Finlandais Valmet. Au Cameroun, une délégation de 24 hommes d'affaires britanniques en mission de prospection a été reçue par le Premier ministre, selon nos confrères de l'APA. Les investisseurs britanniques s'intéressent à l'agriculture, l'éducation, à l'énergie, aux infrastructures, aux mines, à la santé et, de leur propre aveu, surtout à la banque. Des logements de haut standing sont en construction à Angrais, 7e tranche, dans la commune de Cocody, à l'est d'Abidjan. Démarrés en 2014, les travaux, qui sont à 60% de taux de réalisation, prendront fin mi-2016.
La Minute Éco, merci Anastasie. Sans plus tarder, le billet sportif avec Eric Manirakiza. Football, la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 23 ans pour démarrer. On connaît l'affiche de la finale, Eric.
Exactement, Jacques. Le Nigeria et l'Algérie vont disputer la finale de samedi le 12. Les deux équipes valident également leur ticket pour les Jeux Olympiques de Rio. Le dernier billet se jouera entre le Sénégal et l'Afrique du Sud samedi avant la finale. Je rappelle les scores quand même, Jacques. Le Nigeria a battu le Sénégal, pays hôte, 1-0 sur un pénalty, tandis que l'Algérie a éliminé l'Afrique du Sud par 2-0.
Coupe du monde des clubs champions au Japon.
Elle débute le 13 décembre. Le représentant africain, le TP Mazembe, part avec un beau palmarès, Jacques. Le Tout-Puissant a joué la finale en 2010 dans la même compétition. Le seul club africain à ce jour à atteindre la finale. Le TP veut rééditer son exploit, mais le FC Barcelone est le grand favori de l'édition 2015. En cas de victoire, Jacques, les Catalans vont décrocher leur troisième couronne, ce qui serait un record et boucler ainsi un quintuplé, tout titre dans l'année.
FIFA, l'Argentin José Luis Mesner, recherché par la justice américaine, s'est rendu aux autorités de son pays.
Ah oui, le dirigeant historique du football argentin est remis en cause dans le scandale de pot de vin de la FIFA. Son extradition aux États-Unis ne sera pas immédiate, Jacques, car l'examen de la demande est un long processus en Argentine. En revanche, un autre Argentin, sous le coup d'un mandat d'arrêt, est mis aux États-Unis. Alejandro Bursaco s'est constitué prisonnier en Italie en juin et a accepté son extradition. Chose rare, Jacques.
Merci Eric. Et pour terminer, résultat des matchs joués dans la nuit en NBA, le championnat de basket nord-américain. Eh bien, les Raptors de Toronto ont stoppé la série victorieuse des Spurs de San Antonio, l'emportant 97-94. Les autres résultats, Chicago 100, Boston 105, Miami 81, Charlotte 99, Houston 109, Washington 103, Memphis 93, Détroit 92, Los Angeles Clippers 109, Milwaukee 95, Los Angeles Lakers 122, Minnesota 123, Orlando 104, Phoenix 107, New York 85, Utah 106 et Atlanta 98, Dallas 95.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Autant donc pour le journal Le Monde aujourd'hui se poursuit sur VOA Afrique. Nous émettons depuis Washington. Jacques Aristide toujours avec vous. Nous passons maintenant à notre segment magazine. Nous vous le disions un peu plus tôt, véritable course contre la montre à la COP21. Le secrétaire d'État américain John Kerry a exhorté hier les délégations à mettre de côté leurs différences pour conclure un accord fort contre le changement climatique. Son homologue français Laurent Fabius a fait état de progrès notables. Compte rendu, Lionel Gaïma.
À quelques heures de la conclusion de la conférence internationale du Bourget, le chef de la diplomatie américaine, John Kerry, a résumé son propos en quelques mots.
Our task is clear. Our moment is now. Let's get this job done.
Notre tâche est claire. Notre moment, maintenant. Allons accomplir cette tâche. Monsieur Kerry a annoncé que les États-Unis vont doubler leur appui aux pays pauvres, le portant à 860 millions de dollars. La mission des négociateurs, parvenir à un accord limitant le réchauffement mondial à 2 degrés Celsius ou moins par rapport au niveau pré-industriel. Le consensus semble à portée de main dans les domaines comme l'adaptation au changement climatique et le transfert de technologies en faveur des pays pauvres. Un nouveau projet d'accord introduit mercredi a été ramené de 43 pages à 29, a dit hier le ministre français des Affaires étrangères Laurent Fabius qui préside les travaux.
J'ai noté que trois questions transversales devront faire l'objet particulièrement de discussions approfondies dans les heures qui viennent. Je veux citer la différenciation, les financements et le niveau d'ambition de l'accord.
Tout accord conclu à Paris doit être considéré comme un point de départ des efforts de réduction des émissions de carbone, non à la fin, a tenu à souligner de son côté le secrétaire d'État John Kerry. Ce dernier a orienté son discours vers les pays en développement en prêchant en faveur d'un plus grand compromis. Si toutes les nations industrialisées allaient à zéro degré, rappelez-vous ce que j'ai dit, toutes les nations industrialisées au niveau zéro d'émissions, cela ne suffirait pas pour autant, pas lorsque 65% de la pollution mondiale au carbone provient du monde en développement. Le chef de la diplomatie américaine n'a pas oublié son auditoire domestique, certains Américains n'étant toujours pas sûrs si le changement climatique existe de lui-même ou s'il est la conséquence d'activités humaines. Même si les bases scientifiques étaient en grande partie fausses et que les sceptiques avaient raison, le monde se porterait toujours mieux avec un accord sur le climat, estime John Kerry. Mais de l'autre côté, si les scientifiques avaient raison et si les sceptiques du climat se trompaient, nous ferions face à une catastrophe. C'est aussi simple que cela. C'est le choix que nous avons devant nous. Les délégués à la COP21 doivent impérativement parvenir ce jeudi à un plan acceptable de lutte contre le changement climatique qui pourra alors être officiellement adopté vendredi.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
Une délégation de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples mène depuis le 7 décembre une enquête sur les violations des droits humains et autres exactions ayant eu lieu au Burundi, pays en proie à une crise ayant éclaté en avril 2015. La délégation devra formuler des recommandations au Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine à l'issue de sa mission. Mais quel est l'intérêt de cette initiative à ce stade de la crise burundaise? Timothée de Longmaille, adjoint à Kigali, Innocent Mouosi, président de l'Observatoire de la presse burundaise.
Je ne comprends pas très bien quel est l'intérêt, parce que depuis tous ces mois où les gens qui tuent, qui torturent, qui font la chasse à l'homme dans le pays, de tout ce qui leur ressemble pas, ne sont pas du même bord politique, ne se cachent pas pour tuer. Ça fait des mois que toutes ces choses-là se font devant toutes les caméras du monde entier. Ça fait des mois que des milliers de gens sont ramassés, que des centaines de gens sont tués, torturés, au vu, au su de tout le monde. Je ne comprends pas très bien que ce soit maintenant que la commission vienne, et je ne vois pas trop bien sur quoi elle vient enquêter. Il est vraiment plus que temps d'agir. Il y a une extermination à huis clos en cours dans notre pays, spécialement dans la capitale, envers tous ceux qui sont jeunes. Tout jeune est suspecté d'être un rebelle. C'est aussi simple que ça. Vous vous faites tuer juste parce que vous êtes jeune. Vous vous faites torturer juste parce que vous êtes jeune. Vous vous faites enlever juste parce que vous êtes jeune. C'est aussi simple que ça. Et les gens qui font cela ne se cachent pas. C'est des autorités publiques connues, en uniforme. Ils alignent des gens contre le mur, les mitraillent tranquillement. Après, ils vont dire que c'était à la suite d'une poursuite. C'est terrible ce qui se passe au Burundi aujourd'hui, au vu aussi du monde entier.
En même temps, innocent, oui. La violence semble cibler tout le monde. Des personnalités gouvernementales sont aussi visées.
Parce que pendant des mois, on a dit aux Burundais qu'il n'y avait pas d'autre façon de s'en tirer que de se défendre par les armes. Ça a commencé par des manifestations pacifiques qui ont été réprimées par la mitrailleuse, carrément, par la violence extrême. Et le monde entier, regardez, qu'est-ce que vous voulez que les gens fassent après? Aujourd'hui, pratiquement, c'est lui qui ne sait pas défendre son fils. C'est lui qui ne sait pas se défendre par les armes et tout simplement un idiot dans le contexte du Burundi aujourd'hui. La violence, évidemment, aujourd'hui, n'est plus le monopole des pouvoirs publics. Il y a également dans la société des groupes qui se sont organisés, qui attaquent la police, qui attaquent les personnalités publiques. Et c'est désastreux, c'est malheureux tout ça. On n'aurait pas dû en arriver là. On aurait dû arrêter tout ça avant qu'il ne soit trop tard. Quand l'État a commencé à mitrailler des manifestants pacifiques, on aurait dû arrêter ça bien plus tôt que ça. Après, qu'est-ce que vous voulez que les gens fassent?
L'ONU a souligné cette semaine des risques de génocide au Burundi. Qu'est-ce qui peut être fait aujourd'hui face à la crise burundaise?
Dans cette sous-région, il y a une brigade d'intervention qui est censée intervenir dans les pays quand il y a des situations graves de violation des droits de l'homme ou des massacres. Moi, je ne sais pas trop à quoi ça sert. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a des moyens d'agir, l'Union africaine, etc. Mais encore une fois, nous savons que c'est des États, nous savons, nous connaissons tous les odeurs de ces choses-là. En deux mots, ça veut dire quand vous n'êtes pas capable de défendre votre corps, vous avez tout le temps de mourir avant que les gens ne viennent compter vos cadavres et porter des jugements, faire des enquêtes. C'est terrible le message qu'on est en train d'envoyer au Burundi à la région aujourd'hui.
Innocent Muhoozi, président de l'Observatoire de la presse burundaise, était en ligne depuis Kigali. La corruption, un frein au développement, c'est le thème qu'a choisi le Mali pour marquer une semaine d'activité initiée dans le cadre de la Journée internationale de la lutte contre la corruption. Un événement célébré chaque année dans le monde, le 9 décembre, vous le savez. Au Mali, le gouvernement entend venir à bout du phénomène généralisé de la corruption. De Bamako, les explications de notre correspondant Kassim Traoré.
Les autorités maliennes affirment que la lutte contre la corruption demeure leur priorité. Le président de la République a déjà remis à la justice plus de 200 dossiers concernant des cas de corruption et de délinquance financière. Modibo Keïta, premier ministre du Mali.
Il faut que nous puissions faire en sorte que la parole puisse être suivie par les faits. C'est ça qui va crédibiliser notre démarche. Nous sommes dans une situation où la considération est mesurée à l'empan de la puissance matérielle et monétaire, et même au sein de nos familles. Nous sommes dans une situation où les hommes les plus intègres, les femmes les plus intègres sont considérés comme des personnes qui perdent leur temps.
La journée de la lutte contre la corruption a été un cadre de retrouvailles entre les structures de contrôle de l'État. C'est le bureau du vérificateur général qui a tiré le bilan de ces différents rapports. Famori Keïta, représentant du bureau du vérificateur général.
Le 2011 au 31 décembre 2014, nous avons transmis 48 dossiers à la justice pour dénoncer des cas de fraude, des cas de corruption et des cas de détournement. À la date d'aujourd'hui, les montants recouvrés s'élèvent à près de 7 milliards, dont maintenant 648 000 et quelques de francs CFA.
Les organisations de la société civile qui ont mis en place des structures de contrôle comme Publier ce que vous payez ou le groupe de suivi budgétaire se rendent compte que la lutte contre la corruption n'est pas une mince affaire. Madame Koumaré, représentant des organisations de la société civile.
Dans ce pays, quand tu ne parais pas bien avec le faux, tu es considéré comme un maudit. Quand tu ne fais pas de faveur, tu es considéré comme le plus méchant. Quand tu appliques les principes, les règles, les normes, on te traite de fou ou d'aigri. Où est-ce qu'on va avec ces valeurs-là? Tu viens, tu manges, je viens, je mange. Il viendra, il mangera. Parce qu'on est dans un contexte d'impunité totale, rien ne sera fait.
En 2008, le gouvernement malien a organisé des états généraux sur la corruption. 99 recommandations ont été formées avec un groupe de suivi qui est dirigé par Boubacar Koulibaly.
Ça va du mode de recrutement. Une fois que le mode de recrutement est touché, ça concerne la santé, la police, la justice, tout le monde. Si cela est faussé dès le départ, comment pouvez-vous vous attendre à avoir de bons résultats au sein de ces corporations? Parce que ceux qui sont arrivés à détourner, qui ont amassé de l'argent, ils sont bien vus avec le résultat de cette corruption. Il faut que nous puissions faire comprendre aux gens que, eh bien, non, c'est des corrompus. Ils ne méritent pas la place que vous leur donnez.
En tout cas, au Mali, la lutte contre la corruption est loin d'être gagnée, même si les autorités veulent mettre beaucoup d'énergie dans ce combat. Afin qu'elles ne freinent pas le développement du Mali, Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Trois cents veuves des militaires tués par le groupe terroriste nigérian Boko Haram demandent aux États du Niger, du Tchad, du Nigeria et du Cameroun de payer les pensions de leurs maris tombés au front. Réunies à Yaoundé par une ONG de défense des droits de l'homme, elles se disent abandonnées par les gouvernements de leur pays. Moki Edwin Kinzeka, notre correspondant au Cameroun, a rencontré quelques-unes d'entre elles.
Cette musique appelle les 300 orphelins et veuves venus du Niger, du Tchad, du Nigeria et du Cameroun à plus de courage. Rachel Manga, âgée de 26 ans, est l'une des veuves. Elle a perdu son mari depuis 6 mois.
Quand je vois mon enfant, je pleure tous les jours. Ce que je veux, c'est que le gouvernement, qu'il ne nous oublie pas, qu'il n'oublie pas nos enfants.
Clémentine Atemenge, dont le mari est tombé sur les champs d'honneur, vend des beignets et du haricot en bordure des routes à Yaoundé.
Pendant les obsèques de mon mari, l'État m'avait promis beaucoup de choses. Mais voilà 2 ans aujourd'hui, rien. Au contraire, sa hiérarchie m'a délogé de la maison que nous occupions au camp militaire. Ce qui fait que je suis dépassée par les charges, le loyer, la nourriture et la scolarité de mes enfants. C'est pour cette raison que je me suis installé ici pour vendre des beignets, de la bouillie et du haricot. Mais ça ne suffit toujours pas.
L'activité lui permet de supporter certaines charges familiales. Certaines personnes victimes des atrocités de Boko Haram vivent dans des conditions précaires. Les veuves des militaires ont du mal à rentrer en possession de la pension de leur défunt mari. C'est dans ces circonstances que l'ONG Cercle des Enfants a offert 700 dollars à chaque famille en attendant que l'État joue sa partition. François Etoua est la présidente fondatrice de l'ONG Cercle des Enfants.
Je vais offrir à nos veuves, les femmes de nos soldats tombés au front, des chèques allant de 300 à 400 000 francs CFA pour pouvoir créer des commerces de proximité. Donc on a voulu aujourd'hui leur donner un instant pour pouvoir être heureux.
Le représentant du Niger à la manifestation, Marc Tanguindengue, lance un appel à l'endroit des grands organismes internationaux pour soutenir les victimes du terrorisme.
Du côté du Niger, des mesures ont été prises, notamment par l'accueil déjà des enfants, parce que vous savez, ces derniers ont perdu leur famille. Et bien que déjà les moyens financiers parfois ne suivent pas, mais le gouvernement s'efforce de mettre des camps de déplacés où particulièrement les orphelins sont suivis d'une manière vraiment très pointue.
Le groupe terroriste Boko Haram exerce ses actes barbares depuis bientôt 6 ans. Le bilan est horrible. 20 000 personnes tuées parmi lesquelles les militaires et 2 300 000 déplacés selon Amnesty International. Moki Edwin Kinzeka pour VOA Afrique, Yaoundé.
Scandale dans le monde du sport, c'est le thème de Washington Forum cette semaine. Corruption à la FIFA, soupçons de dopage organisé des athlètes en Russie ou au Kenya, l'éthique sportive est mise à mal par l'argent et la triche. Qu'en pensez-vous? Laissez-nous vos commentaires qui seront lus pendant l'émission ce jeudi à 19h TU, Washington Forum sur VOA Afrique.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Vous me suivez tous les soirs à 20h temps universel dans l'émission RM Show. Au menu, de la bonne musique, des interviews avec des personnalités et des artistes. RM Show donne aussi la parole aux auditeurs de VOA Afrique. Vos commentaires sur notre page Facebook Roger Moutou, la voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-92-85-40. Je répète, 225-58-92-85-40. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Point final à ce numéro du Monde aujourd'hui. Anne Albertson a dirigé la mise en onde. C'est Dan Ellison qui était notre ingénieur. Merci, chers amis fidèles de la VOA, pour votre attention. Rendez-vous demain matin à la même heure et au même endroit. C'était Jacques Aristide dans la capitale américaine. Je vous souhaite une excellente journée. Take care.